Alors, bon matin. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont en train d'enregistrer le match de hockey. Si oui, je ne donnerai pas le résultat jusqu'à date, mais si vous voulez savoir, je peux y aller. C'est encore 1-1. La game est finie. On est en période de surtemps. Donc, ça doit être tout un match. Écoute, j'étais parmi les derniers arrivés. J'aime beaucoup le hockey, surtout quand ça arrive que le Canada joue contre les États-Unis. Je pense que on peut comprendre. Hein? Il y a une petite fierté là-dedans, là. Mais si on est honnête, là, une fois le match fini, gagné ou perdu, là, au super, on va avoir déjà oublié. Mais j'espère qu'on n'aura pas oublié le Seigneur. Le Seigneur va avec nous et devrait occuper une grande partie de notre journée, à partir du matin jusqu'au soir, même dans les temps des matchs de hockey olympiques. Mais anyway, j'ai voulu vous partager ça là, parce que semble que ça nous donne encore espoir en période de surtemps. Bon. J'ai voulu ce matin continuer dans la même veine que la dernière fois que j'étais avec vous. On regardait le thème un acteur qui ne meurt pas, c'est une personne dont Dieu peut utiliser pour accomplir une œuvre à sa gloire et pour l'avancement de l'Évangile. Et puis, on a regardé la dernière fois un personnage quand même assez obscur. Bezaleel. Tu sais, on avait posé la question, mais qui fut le responsable pour ériger ou de bâtir le tabernacle dans le désert? Et puis, on aurait répondu, je pense, pour la majorité de nous, on aurait pensé, mais c'est Moïse. Et c'est sûr que Moïse figure important dans l'histoire, mais ce n'est pas à lui que ça a été donné la responsabilité de le bâtir, d'avoir la sagesse. Puis la capacité de travailler le matériel pour faire quelque chose d'aussi exact que qu'est-ce que le Seigneur exigeait. Un personnage assez obscur. Puis il y avait une immense mission. C'était pas une petite chose qu'on lui avait demandé. Il avait été choisi par Dieu. On ne sait pas la raison. Dieu ne nous donne pas toujours les raisons pourquoi qu'il choisit quelqu'un, mais Paul nous donne un soupçon quand même à nous dire que souvent, Dieu prend les choses qui sont une folie pour le monde pour accomplir son œuvre. Dieu lui avait donné une sagesse exceptionnelle à Bezaleel, et puis il a construit le tabernacle. Et c'est là où la gloire de Dieu a habité parmi le peuple d'Israël. Alors, c'était une grande mission. C'était une œuvre extraordinaire. Mais une fois bâti, c'était fini. Et c'est peut-être la raison pourquoi on ne l'a pas oublié, mais son histoire est moins connue. Si on fait une comparaison entre Bezaleel et ce matin, on va regarder la personne de Ruth. On voit que Bezaleel, lui, son œuvre était fondamentale, structurante, sacrée, mais son histoire reste bref. Puis souvent presque silencieux, on n'était pas nombreux de ceux qui connaissaient Bezaleel. Mais je vais vous dire une chose, si vous avez lu votre Bible, vous vous rappelez de l'histoire de Ruth. C'est un peu drôle parce que finalement, Ruth n'a pas été donnée une mission comme celui de Bezaleel, quelque chose qui était imposant, structural, à la gloire de Dieu. Écoute, elle a pas une grande mission. À la surface, on dirait qu'elle n'a pas accompli grand-chose. Elle n'a pas été appelée comme un Moïse ou un Paul de Tarse, mais c'est une histoire qui est très bien aimée, souvent lue et relue. Elle est sujet à beaucoup de prêches dans l'Église. C'est une histoire qui est très bien connue. Bezaleel accomplit une œuvre précise dans un temps précis, c'est peut-être la raison qu'on l'oublie. Mais l'histoire de Ruth, quand même, un peu différent. Elle incarne vraiment un message qui est intemporel. C'est une histoire pour tous les temps. Puis la raison, je pense, qu'on aime l'histoire de Ruth, c'est que, soyons honnêtes, on peut se voir là-dedans. On peut se voir dans son histoire. C'est une histoire de fidélité dans la souffrance, l'obéissance sans avoir reçu de promesses, une foi vécue dans le quotidien. Ça, c'est l'histoire de Ruth. Et c'est la raison qu'elle est une actrice qui ne meurt pas. C'est pourquoi que je pourrais même arrêter ici puis dire, bien, quelqu'un, racontez-moi l'histoire de Ruth. Puis je pense qu'il y en aurait plusieurs volontaires qui pourraient nous raconter très bien l'histoire de Ruth et de Boaz. Si j'aurais posé la même question la dernière fois pour Betsaleël, vous auriez sûrement dit, mais c'est qui? Donc, on va plonger dans son histoire. On va se voir dans son histoire. Et puis, on va considérer ensemble quelles sont les leçons que Ruth nous donne comme enfant de Dieu qui changent nos vies. Puis, on va y aller un chapitre à la fois. Ruth chapitre 1 jusqu'à Ruth chapitre 4. Ce n'est pas une longue histoire, mais c'est une histoire quand même qui est très importante. Donc, comme introduction, une chose qu'on voit dans l'histoire de Ruth, c'est que Dieu travaille souvent dans les ombres. Ce n'est pas toujours apparent que Dieu travaille de la façon que Dieu peut agir. Parfois, Dieu agit d'une façon où il faut avoir patience pour attendre la fin de l'histoire, que ce soit dans nos vies, dans la vie d'une église, dans la vie de chacun de nous. Parfois, Dieu va travailler lentement, avec une certaine précision, avec un certain but. Et puis nous, on a à se patienter. Combien de fois on voudrait courir devant Dieu? On en a parlé la dernière fois. Ça, c'est un instinct un peu naturel pour nous de vouloir courir en avant. Dans l'œuvre de Dieu, on pourrait dire, tout n'est pas toujours spectaculaire. Dans les choses qu'on voit avec nos yeux, parce que c'est souvent les choses qui vont nous prendre. Hein? Si on les voit avec nos yeux, c'est quelque chose qui nous surprend. Waouh! Il y en a beaucoup qui imaginent que Dieu agit surtout par des miracles qui sont visibles ou dans des ministères qui sont très publics, avec des paroles puissantes. Mais pourtant, quand on ouvre la Bible, on découvre que Dieu travaille souvent dans le silence. Il travaille par des personnes qui sont fidèles, qui sont obéissants et presque invisibles. Puis Ruth est l'un de ces personnages. Si vous lisez l'histoire, Ruth, elle ne prononce pas beaucoup de paroles. Elle ne dit pas grand-chose. Elle n'accomplit pas des exploits extraordinaires. Rien de remarquable. Mais sa vie est une réponse constante à Dieu. Son histoire nous enseigne, comme j'ai mentionné, la fidélité dans le quotidien. Puis c'est qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi. C'est de ne pas attendre puis marcher sur place pour dire, ben, j'attends que Dieu fasse quelque chose de spectaculaire avec ma vie. Parce que des fois, on va attendre longtemps. Commençons l'histoire de Ruth au chapitre 1. Son contexte, quand on fait toujours une étude, hein, c'est toujours important de comprendre le contexte dans lequel l'histoire nous est racontée, parce que dans le contexte vient souvent la fondation de notre application. Si on veut aller chercher une application pour nous aujourd'hui, mais il faut savoir le contexte dans le temps où que ça a été écrit, puis ensuite être capable de transférer l'histoire et ses leçons dans le contexte actuel. Donc, premièrement, l'histoire de Ruth, elle est racontée dans un temps troublé, une époque troublée. C'était dans le temps des juges. Et puis, si vous avez lu le livre des juges, dans l'ouverture du livre des juges, on nous dit ceci au sujet de la nation d'Israël, que chaque personne faisait selon ce qu'il jugeait bon. Ce n'était pas toujours le contexte du peuple d'Israël. Il y avait un temps, dans le temps de Moïse, dans le temps où les Israélites suivaient l'Éternel, quand ils sont rentrés au Canaan, où ce que l'objet d'Israël et la façon qu'ils pensaient était toujours en accord avec ce que Dieu les avait donné. Il avait donné la loi, les commandements, comment vivre. Puis Dieu les avait donné un culte dont on a parlé la dernière fois avec tous les holocaustes, tout ce qu'on faisait pour garder une relation intime avec Dieu. Et ils marchaient dans cette idée. C'est leur pensée, c'est la façon qu'ils vivaient. Mais dans le temps des juges, c'est comme on a comme oublié. Puis on est à un moment où ce que chaque personne vivait selon leur pensée de qu'est-ce qui était bon. Ça vous dit-tu quelque chose d'aujourd'hui, ça? Aujourd'hui, on vit dans une époque où ce que chaque personne vit selon sa propre conviction. Et puis, ils ont pour leur dire, écoute, fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux, suffit qu'on se fait pas mal les uns aux autres, tout est permis. C'est la philosophie d'une société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, si on peut aller chercher des leçons dans l'histoire de Ruth, dans une époque troublée, on peut vite les appliquer dans une époque qui est aussi troublée aujourd'hui, où ce que Dieu a mis de côté, que Dieu n'a pas grande importance. Ruth n'était pas israélite. C'est déjà une autre chose qu'on doit prendre comme un facteur important. Elle était moabite. Écoute, les moabites, ce n'étaient pas les amis d'Israël. Mais dans cette époque-là, dans la situation qu'elle vivait, bien, cette moabite avait marié un Israélite, le fils de Naomi qu'on voit dans l'histoire, sur lequel Ruth s'est attachée. Elle était étrangère. Ce n'était pas son chez-eux. Qu'est-ce qui faisait que c'était son chez-eux? C'est qu'elle était mariée et son époux était Israélite. Mais pour le reste, il n'y avait rien pour qu'elle désire d'être en Israël. Mais tout s'effondre. Son mari meurt. Son beau-père est mort. Et puis Naomi, sa belle-mère, reste sans avenir. Donc, si sa belle-mère n'a pas d'avenir, bien, Ruth non plus, et les autres, dans leur famille. Elle était veuve, pauvre et sans sécurité. À ce moment précis, là, elle aurait pu dire, bon, je mets mon regard sur le Moab et je rentre chez nous. Même Naomi lui a dit, ça serait bien que tu rentres chez toi. Puis, elle répond, ton peuple sera mon peuple. Elle s'attache à Naomi parce qu'elle aimait beaucoup Naomi. C'est sûr que c'est un amour qui s'est développé avec le temps. C'était sa belle-mère. C'est sûr aussi que dans sa famille, elle avait entendu parler du Dieu d'Israël. J'imagine que si dans la famille de Naomi, on n'avait aucun regard et aucune pensée pour l'Éternel, mais elle aurait peut-être avoir eu moins d'affection et peut-être moins de pensée de s'attacher au Dieu d'Israël et de suivre Naomi dans un retour en Israël. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est un acte de foi. Il n'y avait aucune garantie. Il n'y avait pas de promesse. Ruth ne choisit pas une bénédiction. Elle choisit Dieu. Même on pourrait plutôt dire qu'elle était prête à recevoir peut-être une vie qui était plus difficile. Mais elle s'est attachée au Dieu d'Israël et à Naomi. Et puis, ils ont fait le séjour de sortir du pays pour rentrer chez Israël. Ça va être bien important quand on va arriver dans l'application. Cette idée qu'on ne fait pas une décision par rapport à la bénédiction ou les bénédictions qui nous sont données de nous attacher à Dieu. De simplement choisir Dieu pour qui il est. Ça a été mentionné tantôt. On pourrait facilement choisir le ciel parce que c'est beaucoup plus beau que l'enfer. Tu sais, quand on avait ça, cette idée-là dans notre tête, là, quand on ne connaît pas le Seigneur, puis on entend parler de lui, puis on entend que c'est un Dieu de colère qui, à cause de notre péché, pourrait nous envoyer dans un enfer, une séparation de lui pour toujours, c'est pas une belle promesse. Donc, on pourrait choisir Dieu parce qu'on veut éviter d'aller en enfer. Puis, je vais être honnête avec vous. Hein. À l'âge de 14 ans, là, c'était la chose qui me préoccupait. Je ne voulais pas aller en enfer. Puis, si j'ai choisi Dieu, c'était plus pour sortir du feu de l'enfer que Dieu lui-même. Et si Ruth nous donne l'exemple qu'elle choisit Dieu sans avoir de promesse, ni de bénédiction, même une attente que les choses pourraient être pires. Au chapitre 2, on voit Ruth qui est rentrée en Israël. Puis Ruth ne reçoit pas aucune révélation particulière. Ce n'est pas comme il y a eu une voix du ciel ou un ange qui l'a visitée. Où un prophète a passé lui donner un message, il n'y a pas eu de révélation. Elle ne devient pas une prophétesse, elle ne change pas le monde, mais elle fait ce qui est juste. Elle se met au travail. Il y a le côté pratique de la vie. On mange ou on ne mange pas. Elle choisit de manger, puis ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille. Puis on sait, à l'époque, la loi d'Israël, c'était que quand on moissonnait un champ, on laissait toujours les coins pour ceux qui étaient pauvres. Puis c'est là où ce que Ruth se présentait là, pour glaner qu'est-ce qu'elle avait le nécessaire pour vivre, d'aller chercher les restants, le peu qui restait dans les petits coins des champs. C'est une activité qui était réservée pour les pauvres. Donc, elle se voyait dans cette situation, elle savait que sa réalité, c'était la pauvreté. Puis elle accepte cette humiliation, cette fatigue, cette dépendance sur la bonté des autres. Elle ne réclame rien. Elle se rend disponible et sa fidélité se respecte, se manifeste dans le respect. Un travail honnête, l'écoute des conseils de Naomi et la persévérance. J'imagine que chaque jour ressemblait au dernier. On se levait tôt, on allait passer des heures dans les champs à glaner les restants, tout ce qu'on pouvait trouver. Elle ne savait pas que Boaz la regardait de loin. Mais Dieu le voyait. La Bible souligne que Boaz remarque justement son témoignage, sa bonté envers Naomi, sa droiture et son engagement. Ce que Ruth vit discrètement devient un témoignage puissant. On voit dans Ruth, chapitre 2, au verset 11, ceci est écrit au sujet de qu'est-ce que Boaz a remarqué. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. C'est qu'est-ce qui a frappé Boaz en premier? Il y en a qui lisent là-dedans peut-être une grosse histoire d'amour puis un coup de foudre. La Bible ne nous donne pas cette histoire-là. C'est un amour en développement. Qu'est-ce que Boaz voit en premier? C'était son caractère. Une étrangère, Moabite, qui glane dans les champs d'Israël. Pourquoi? Pour pourvoir à elle et à Naomi une subsistance pour vivre. Sans de complainte, en respectant, sans demandant rien, puis c'est ça qui frappe Boaz, parce qu'elle était, on pourrait dire, elle avait un beau témoignage. Ça, c'est un autre aspect de l'histoire qu'on peut amener à la fin, l'importance d'un témoignage. Au troisième chapitre, on voit un Dieu qui honore justement la droiture et l'humilité. C'est Naomi qui conseille à Ruth comment faire. Ici encore, Ruth ne discute pas, elle n'improvise pas, elle fait simplement obéir à Noémie. C'est Noémie qui avait le plan pour que Boaz lui montre une bonté, de se préparer pour coucher à ses pieds. Puis elle agit dans la pureté, sans avoir à manipuler et sans avoir à se précipiter sur Boaz. Boaz reconnaît en elle une femme vertueuse. Puis on ne voit jamais Ruth qui essaie de se mettre en avant. Mais c'est sa vie qui parle pour elle. Dieu alors ouvre une porte que Ruth n'aurait jamais pu forcer d'elle-même. Elle n'avait pas le statut pour le faire. Elle était une Moabite, une étrangère qui glanait dans les champs des Israélites. Les Moabites, c'étaient les ennemis d'Israël. C'est Dieu qui s'est chargé du reste. J'ai une habitude de parler plus vite que mes cliches. Bon. Le chapitre 4. On arrive à l'apogée de l'histoire. À l'époque, une femme veuve pouvait être rachetée par le frère de son mari, et si elle n'avait pas un proche parent, un proche parent de son époux. C'était une loi que Dieu avait donnée à Israël, que les gens connaissaient, mais il y avait des stipulations, puis il y avait une façon de faire. Ce n'était pas un automatisme. Le proche parent pouvait dire non. C'est justement ce qu'on voit dans l'histoire, parce que Boaz n'est pas le plus proche des parents de l'époux de Ruth. Il était comme en deuxième place, on pourrait dire. Et puis la loi exigeait qu'on aille trouver le plus proche des parents pour faire la rédemption et de prendre Ruth comme épouse. faut prendre soin d'elle, qu'elle devient l'épouse du proche parent de son époux. Le premier refuse. Puis ça a été refusé de façon très publique à la manière que les Israélites le faisaient. Donc, tous étaient d'accord, tous qui ont vu qu'est-ce qui s'est passé, ils ont dit, ouais, lui, il veut rien savoir. Alors, à ce moment-là, Boaz se présente comme le proche parent, celui qui pouvait la prendre comme son épouse. Par la loi d'Israël, qui permettait justement cette chose, même avec une étrangère, une Moabite. Donc, Boaz agit selon la loi du rachat. Ruth devient son épouse. On pourrait dire que l'histoire, elle se conclut quand même assez simplement. C'est là où on voit une histoire d'amour, hein, un peu. Là. Justement, Netflix, là, dernièrement, je ne l'ai pas vu, là, mais j'ai vu apparaître sur mon écran « Ruth and Boaz ». Mais c'était dans un contexte moderne, mais je n'ai aucune idée si c'est bon ou pas bon. Là. Des fois, les titres nous invitent à regarder quelque chose, puis on dit, mais c'est pas qu'est-ce que je m'attendais, je ne le sais pas. Mais j'ai juste vu que c'est quand même une histoire de longue date qui nous est donnée comme une histoire romantique. On pourrait dire que ça se conclut assez ordinaire. Un mariage, une histoire d'amour, ça finit là. Non, ça finit pas là. Voici la généalogie de Ruth. Vous voyez Boaz, là, le quatrième du bois de la liste là, de la frise généalogique de David le roi. Boaz était le père d'Obed, donc l'enfant de Ruth, Obed, qui devient le père d'Isaïe, qui devient le père de David. Et par extension, on peut aller plus loin. David devient le parent très lointain de 28 générations du Seigneur Jésus-Christ. Une étrangère, un ennemi d'Israël, pas que Ruth elle-même personnellement était ennemie d'Israël, non. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle n'était pas ennemie d'Israël, mais son peuple était. Elle figure dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la grandeur de l'histoire. Dieu prend quelque chose de tellement, on pourrait dire, insignifiant dans un côté pour faire quelque chose de vraiment grand. Ruth est comme l'arrière-arrière-arrière plein de fois de Jésus-Christ. C'est quelque chose. Elle a sa place dans la lignée messianique. C'est pour ça que l'histoire de Ruth n'est pas oubliée. Au moins, ça devrait être la partie de l'histoire qui devrait venir nous chercher. C'est qu'à travers elle et Boaz, la progéniture future du Seigneur Jésus-Christ est garantie. Puis c'est vraiment bien que Dieu, dans sa sagesse, a planifié les choses pour nous démontrer que dans la généalogie de Christ, c'était pas juste des Israélites de haute couture, puis de, tu pourrais dire, un pedigree en anglais. C'était une femme tout à fait bien ordinaire, comme d'autres. Il y en a d'autres aussi qui ne sont même pas parmi Israël. On a Rahab, qui se figure dans cette même généalogie. C'est la raison que c'est une actrice qui ne meurt pas. C'est la raison qu'on lit son histoire encore aujourd'hui, puis on aime arrêter sur cette histoire. Mais tout cela, bien, je pense que vous étiez déjà conscient. Pour ceux qui ont lu son histoire, vous avez déjà pensé à ces choses. C'est une belle histoire, c'est une belle narration. Mais là, il faut se placer nos deux pieds dans ces souliers, là, puis essayer d'aller voir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'Église d'aujourd'hui? première chose, c'est ça, on a passé du temps la dernière fois aussi. Dieu ne méprise pas les vies qui sont discrètes. On a parlé la dernière fois des dons, de ceux qui étaient très visibles et de ceux qui sont très discrets. Puis on a des fois le danger de penser que ceux qui sont les plus voyants sont les plus importants, mais parfois c'est les choses les plus discrètes qui sont les plus importantes. Il ne faut pas marcher sur le lieu en attendant que Dieu fasse une grande chose. Il est en train de faire une grande chose, mais des fois, c'est à l'échéance de toute une vie que la grande chose est faite. Ce n'est pas dans un moment. Ce n'est pas dans une période de plusieurs semaines, un mois, une année. On devient enfant de Dieu à un certain âge. J'avais 14 ans. Puis je remercie le Seigneur que Il est venu me chercher tôt dans ma vie, parce que j'aurais pu gâcher ma vie dans plein de différentes façons. Mais à l'âge de 14 ans, je n'étais pas prédicateur, puis je n'étais pas, on pourrait dire, un chrétien modèle. Mais Dieu a fait des choses tranquillement dans ma vie. Je peux voir la main de Dieu dans ma vie, dans différentes circonstances dans ma vie. Puisque je me suis attaché à sa fidélité parce qu'il faisait de plus en plus de preuves tout au long de ma vie pour que je m'y attache plus fort, pour faire valoir le don qu'il m'avait donné. Puis c'est la même chose pour nous, chacun de nous ici ce matin. Dieu nous a donné un don. Des fois, vous allez me poser la question, mais c'est quoi mon don? Peut-être que je vais être capable de vous répondre parce qu'il y a des dons, des fois, c'est très voyant que tout le monde le remarque peut-être sauf que toi. Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est ton don, va te chercher une personne de confiance que tu connais ici à l'église puis demande-leur, que penses-tu est mon don? Ils vont vous le dire. Mais là, exploite-le, ce don-là, à la gloire de Dieu puis au service de l'église. Hein, quel privilège de le faire! Quel privilège de s'impliquer dans la vie d'Église, dans la vie des autres, de tes frères et sœurs, d'avoir des amitiés, des intimités avec les gens de ton Église, des gens avec lesquels tu es vraiment content d'être avec, de les voir arriver. Une autre application pour nous, qu'on voit dans l'histoire de Ruth, c'est que l'obéissance précède des fois la compréhension. On se poserait des questions, plein de questions. Le Seigneur dit, mais je vais vous te le faire découvrir, mais en premier lieu, démontre ta fidélité. Marche avec moi. Marche avec moi, puis on va découvrir ensemble qu'est-ce que j'ai pour vous, qu'est-ce que j'ai pour toi. Ruth a obéi sans le savoir. Il aurait dû avoir des journées à glaner là, dans les coins des champs là, où il faisait très chaud, que ça aurait dû être difficile. Elle pensait peut-être à son pays, avec sa famille qui était encore dans un pays étranger. Elle aurait peut-être voulu partir pour aller trouver sa famille. Mais elle a resté, elle a obéi. À garder sa parole. Elle était poussée intérieurement. Puis sa relation avec Naomi était une relation intime. Elle aimait beaucoup Naomi. Mais elle aimait aussi le Dieu de Naomi puis le peuple de Dieu. On doit des fois marcher sans voir. Mais on sait que Dieu dirige. Mais il faut être prêt. Au moment où le Seigneur dit, OK, on déclenche, là. Je te demande de faire ça ici, là. J'ai ça pour toi. Est-ce qu'on dit non, Seigneur, je peux pas? Est-ce qu'on fait comme Jonas pour dire, ah non, non, non. C'est pas ça que j'ai dans l'idée, Seigneur. Si tu aurais offert ça, j'aurais peut-être passé de le faire, mais tu m'offres quelque chose, non. Qu'est-ce que Jonas a fait? Dieu, à un moment donné, active dans la vie de Jonas une situation où il peut glorifier Dieu, puis il dit, wow, je ne sais pas qu'est-ce que je m'attendais, Seigneur. Quand Muriel est venue au Seigneur, elle avait déjà à cœur d'être missionnaire. Ça, c'est l'affaire qui était le plus loin de ma vie, dans ma pensée. Si vous me connaissez, là, moi qui dédaigne tellement de différentes sortes de nourriture, aller dans un autre pays étranger manger des bébites, là, ça, c'était pas pour moi, là. Mais non, mais c'est comme si le Seigneur m'aurait offert une mission, là, comme être missionnaire dans un pays étranger. Il semble que je n'aurais pas pu répondre oui, mais écoute, il aurait fallu répondre oui si j'aurais voulu marcher dans sa droiture. Il ne me l'a pas demandé d'aller dans un pays étranger. Il aurait fallu que je sois prêt pour y aller si c'est ça que le Seigneur m'appelait à faire. L'obéissance précède des fois la façon qu'on comprend les choses. Nous, on essaie de comprendre les choses selon notre logique, selon nos pensées. On va faire ci, on va faire ça, ensuite ça va faire ci, puis ça. T'sais? Avant de se marier, bien là, je vais me marier, on va avoir des enfants, on va faire ci, on va faire ça, on va acheter une maison. Tu sais, on a toutes les façons de faire des plans. Et des fois, le Seigneur dit non, 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 non. C'est tout à l'envers de ton plan, là. C'est pas comme ça que je voudrais t'utiliser. Hein? Noémie, là, quand elle était jeune, puis elle regardait sa vie devant elle, penses-tu qu'elle disait à soi-même, ah, oh, ben, je vais marier, puis il va mourir, puis je vais être pauvre, puis ça va aller mal. C'est pas la vie qu'elle voyait pour elle. Mais quand elle était dans cette situation-là, elle était prête à obéir. Qu'est-ce qui a attiré Boaz à Ruth? C'était son témoignage. C'est la façon qu'elle vivait sa vie. Puis quand il l'a connue davantage, puis il avait maintenant un amour pour elle, il a trouvé une femme de vertu. Elle était une fille qui aimait Dieu. Elle était une fille serviable. Elle mettait les autres avant elle. Dieu cherche juste des cœurs qui sont disponibles. Pas des positions qui sont élevées. S'il y a quelque chose qu'on voit dans l'histoire, c'est que tout cela se déroule dans le quotidien. Hein, on regarde ces quatre chapitres-là, puis ce n'est pas comme une longue histoire de toute une vie. C'était une courte période du moment qu'ils sont partis d'un pays étranger pour retourner en Israël et il fallait s'occuper de nos besoins quotidiens. Puis on dirait que ça n'était pas une longue période entre le temps qu'elle est arrivée, puis le temps qu'elle devient l'épouse de Boaz, et éventuellement une maman d'Obed, et éventuellement la grand-maman d'Isaïe et l'arrière-grand-maman de David. Ainsi de suite jusqu'au Seigneur Jésus. J'aimerais terminer en vous apportant un encouragement. Vous êtes là peut-être assis pour vous dire, comme moi je me dis souvent, écoute, j'ai juste une vie bien ordinaire. Merci Seigneur. Puis nous, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, oui, ça pourrait paraître ordinaire, mais sais-tu, ordinaire beau ou si tu es ordinaire mauvais, c'est ordinaire beau en masse. On a peut-être des vies ordinaires, mais écoute, qu'est-ce d'autre qu'on voudrait avoir? Le Seigneur nous bénit avec qu'est-ce qu'on a besoin pour manger? Qu'est-ce qu'on a besoin pour se vêtir? Qu'est-ce qu'on a besoin pour habiter? Puis encore beaucoup plus. C'est des vies ordinaires, mais des vies bénies. Peut-être notre vie se semble ordinaire, mais dans les mains de Dieu, même dans l'ordinaire, il peut avoir de l'extraordinaire. Pour chaque personne à laquelle tu as parlé du Seigneur Jésus, c'était extraordinaire. Parce que Dieu, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers, il s'est confié en toi puis t'a donné la responsabilité de parler à quelqu'un du Seigneur Jésus. Écoute, y a-t-il quelque chose de plus grand que ça? Puis il te l'a confié à toi. Il l'a confié à moi. Puis quel privilège si cette personne-là devient enfant de Dieu. Écoute, y a-t-il quelque chose qui nous rémunère plus que d'avoir le privilège de voir quelqu'un naître de nouveau parce que le Seigneur t'a donné à lui parler au Seigneur Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une personne morte dans leur péché, née nouveau, avec la même espoir que nous avons, la vie éternelle, pour toujours dans la présence de Dieu. C'est pas ordinaire. Des fois, on pourrait être porté à dire, bon, ben oui, OK, j'ai un service, mais il est quand même pas mal. On dirait que notre évaluation, c'est que le ministère que Dieu m'a confié n'est pas si important. Personne ne le sait. Dieu le sait. Dieu le voit. Puis Dieu prévoit même déjà des récompenses futures pour tout ce qu'on fait en son nom, pour sa gloire, sans avoir des motivations autres que de honorer Dieu. Il y a des récompenses qui nous sont réservées. Le Seigneur l'a fait le point avec ses disciples, hein, lorsqu'il a dit, écoute, j'étais nu, puis vous m'avez donné quelque chose à porter sur mon dos. Ils vont dire, mais quand est-ce que tu étais nu? Hey, j'ai eu soif, puis vous m'avez donné quelque chose à boire. Hein? On a fait ça? Quand est-ce que j'ai fait ça, Seigneur? J'ai eu faim, puis vous m'avez donné à manger. Ah oui? Quand est-ce que tu as passé chez nous pour manger, Seigneur? Puis il nous dit, si on le fait à quiconque des autres, de ceux qui nous entourent, à chaque fois qu'on fait une bonté à quelqu'un, c'est comme on le fait pour le Seigneur. Il y a une récompense. Des fois, là, ça passe inaperçu, sauf pour la personne que tu bénis, la personne qui reçoit de quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi boire, au nom du Seigneur Jésus. Eux, ils ne l'oublieront pas. Et pour certains, ça va créer une amitié, une confiance, et une occasion future pour parler du Seigneur. Il faut développer justement ces relations-là. Dieu voit tout. Donc, on pourrait dire, c'est une copie-collée un peu du message de la dernière fois, je ne vous apporte vraiment rien de nouveau, mais je fais le point encore une fois, que ce soit un acteur, Bethsaléel, ou que ce soit une actrice, Ruth, c'est le même exemple. Si on est fidèle, Dieu est fidèle. Puis souvent, c'est Dieu qui est fidèle en premier, puis notre réponse à sa fidélité, c'est notre fidélité. Il faut s'enlever du centre de nos vies, on le dit des fois, être sur le trône de nos propres vies, des fois on veut se placer sur le trône de nos vies, mais plaçons sur le trône de nos vies Dieu, dans sa place qu'il mérite en premier. Quand j'étais ado, il y avait un chant en anglais qu'on chantait. I was running from my master. Puis là, ça finit avec le refrain. Now I'm sitting in the back seat and I'm leaving all the driving to the chief. C'est un peu dur à traduire, mais c'est juste qu'on donne le volant de nos vies au Seigneur, puis on s'assoit dans le siège arrière, puis on lui donne la commande de nos vies. Écoute, il n'y a rien de plus beau dans les oreilles de Dieu qu'entendre un de ses enfants qui dit, « Seigneur, prends-moi. Je suis une vase d'argile. En moi, il n'y a rien de bon, mais toi, tu peux faire quelque chose de bon en moi. C'est mon exhortation pour vous et pour moi ce matin, de continuer à chercher Dieu dans le quotidien, dans les petites choses. Et puis, si jamais Dieu vous appelle, peut-être une chose qui est un peu plus grande, mais de ne pas hésiter, puis aller de l'avant, puis dire, oui, Seigneur, utilise-moi, sois glorifié dans ma vie. Prions. Merci Seigneur pour cette histoire qui résonne encore des 1000 ans plus tard, l'histoire de Ruth. Seigneur, c'est vrai, à la surface, ça semble pas vraiment une grande histoire. Hein? Mais Seigneur, là-dedans, il y a tellement pour nous à nous nourrir avec un exemple qu'on peut suivre. Ruth, pour nous, c'est un modèle, une façon de vivre, une façon qui te plaît. Une façon, Seigneur, que tu peux utiliser pour faire de grandes choses. Seigneur, voici ton Église réunie ici ce matin avec une simple prière. On cherche un réveil en nous individuellement, mais aussi comme Église locale. Seigneur, on veut en voir d'autres ajoutés à ton royaume. On veut être de ceux, Seigneur, que tu peux utiliser quand tu veux, où tu veux, pour parler de Jésus-Christ, pour apporter l'Évangile, Seigneur, hors de ces quatre murs ici, dans l'Église, et d'en voir d'autres ajoutés pour ta gloire. Merci encore, Seigneur, de nous accompagner dans la semaine qui est devant nous, et aussi, Seigneur, bénis notre conversation et notre temps autour des aliments que nous allons prendre dans notre dîner ce matin, dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.